Shabbat Tov, les Koulam, Shalom, Shalom. Et très heureux de vous retrouver après cet intermède dû à Toubishvat, où on a étudié Toubishvat. Eh bien, nous revenons dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et nous étions arrêtés il y a deux semaines, à l'histoire des premiers chassidés ashkénazes. Et on était arrivé jusqu'au Maharam de Rothenburg. Et donc, on avait parlé de la partie Europe du Nord, Europe France, Europe occidentale de cette période-là. Et donc, eh bien forcément, aujourd'hui, nous allons parler de son acolyte, son alter ego, Sepharad, puisque c'est parti, nous voilà partis en Espagne. Et toute notre étude aujourd'hui sera tournée vers l'Espagne. Quelle est l'époque qui va nous intéresser aujourd'hui? Eh bien, elle est très simple, c'est le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est peut-être le tout début du XIVe siècle. C'est les 100 années qui nous intéressent, qui, au niveau de la Kabbalah, vont être une véritable révolution. Révolution de la Kabbalah, puisque ça va être l'avènement d'un monsieur dont on va parler, alors pas en premier, mais en second, d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Rabbi Moshe ben Nachman Nachmanide, ou alors plus connu sous son abréviation, le Ramban. Mais nous allons y revenir. Dans un premier temps, eh bien, vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé des Rabbanim de Sfarad, on avait parlé de Rabbi Yehuda Alevi, et après on était parti, même si au niveau du timing, voilà, c'était pas forcément, c'était un petit peu juste avant, mais on avait parlé également du Rambam, le Maïmonide, et de se poser la question, est-ce qu'il était Mekoubal, est-ce qu'il n'était pas, est-ce qu'il connaissait, est-ce qu'il ne connaissait pas, tout ça, on a déjà vu. Maintenant, nous allons arriver face à un homme qui arrive donc après le Rambam, qui s'est formellement opposé au Rambam, peut-être aussi justement à cause de son non-intérêt officiel pour la Kabbalah. Cet homme-là s'appelle Rabbeinu Yona ben Avraham Gerondi, ou alors en français, Rabbi Yona de Gérone. Et c'est lui qui va nous intéresser en premier. Rabbeinu Yona, comme on l'appelle dans le langage des Yeshivot, Rabbeinu Yona. Alors Rabbeinu Yona, il naît en 1210 et il va mourir en 1263. Et Rabbeinu Yona, il fait partie de la Shita des Rabbanais Gérone. Qu'est-ce que c'est que cette Shita-là des Rabbanais Gérone? Eh bien, il faut bien comprendre que pour les rabbins de cette époque-là, les rabbins séfarades, du monde séfarade, eh bien, il n'y a aucun problème à mélanger Torah Taniglé et Torah Tanistar. Alors qu'on a vu que chez les Ashkenazim, chez les Baalei HaTosfot, il y avait évidemment des Mekoubalim, on en a parlé, Rabbeinu Tam, mais on ne voyait pas forcément une osmose, si vous voulez, entre Torah Taniglé et Torah Tanistar. Il y avait Torah Taniglé, il y avait Torah Tanistar, c'était deux choses différentes. Et maintenant, eh bien, dans le monde séfarade, ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est évidemment l'influence de Torah Zahav, c'est l'influence de la génération dorée, comme on appelle ça, de l'époque de Rabbi Yehuda Alevi, de cette époque où il y avait des rabbanim, comme on a dit, Rabbeinu Chisda ibn Chaprout, et comme on a parlé de Rabbi Shlomo ibn Gabirol, on a parlé de rabbanim qui étaient en fait des touche-à-tout. Et ils vivaient leur vie comme étant une unité, eh bien, nous avons encore ces vestiges-là dans l'Espagne de la Reconquista. Oui, car c'est très important de le souligner, les rabbinim que nous allons évoquer maintenant sont sous domination chrétienne. Alors que Rabbi Yehuda Alevi est sous domination musulmane, alors que Shmuel HaNagid est sous domination musulmane, eh bien, là, nous allons faire face à des rabbins qui sont en Espagne, mais sous domination chrétienne. Eh bien, il y a justement, suite à cette réalité chrétienne, eh bien, Rabbeinu Yona arrive pour tout simplement écrire un livre fondamental, qui vient répondre également à la question chrétienne. Vous savez que dans le christianisme, il n'existe pas de teshuva. Il n'y a pas de teshuva dans le christianisme. Il y a la confession. Mais la confession n'est pas la teshuva, puisque la teshuva, c'est trois choses. C'est un, le charata, reconnaître et être comment dire, reconnaître, non, pas reconnaître, Harata. Oh là là, Harata, aidez-moi, ouvrez un micro, aidez-moi, en français. Le regret, merci, excusez-moi, autant pour moi. Le regret, donc d'abord, il faut que je regrette ma faute. Ensuite, il y a le vidouille, c'est-à-dire reconnaître. Et enfin, Kabbalah la'atid, c'est-à-dire accepter que je ne, enfin, prendre la décision de ne plus le refaire. Dans la chrétienté, il n'y a que le vidouille. Il n'y a pas de harata et pas de Kabbalah la'atid. Et je vais vous dire mieux que ça, dans le christianisme, même si tu as reconnu, tu regrettes ce que tu veux, ça ne change rien, puisque au final, tu es fondamentalement fauteur. Donc le seul qui peut t'amener au paradis, c'est la grâce divine. Eh bien, Rabbeinu Yonah va écrire un livre qui est un livre fondamental, un, au niveau individuel pour toi et moi, mais au niveau de la pensée générale du judaïsme, qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah, où Rabbeinu Yonah vient nous dire qu'il n'y a absolument rien contre lequel tu ne pourrais pas faire Teshuvah. Il vient répondre au Rambam. Et oui, car le Rambam, dans les Ilchot Teshuvah, dans les lois sur la Teshuvah qu'il a écrit, eh bien, il nous dit qu'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas faire teshuva. C'est quoi? Chilul Hashem. Chilul Hashem, tu ne peux pas faire teshuva. Eh bien, c'est un vrai problème. Alors, Rabbeinu Yonah, il se sent extrêmement touché par cela, puisque lui-même a entrepris comme si vous voulez, comme combat de vie, d'aller dans toutes les communautés où le Rambam était passé pour dire qu'il ne fallait absolument pas étudier ses ouvrages, que c'était une erreur et que ce n'était pas comme ça qu'il fallait voir le judaïsme. Et donc après, des gens lui ont dit « Mais attends, mais ce ne serait pas un peu du Hilul Hashem que d'aller parler contre un rabbin comme ça ?» Et donc le Rabbeinu Yonah va décider, pour corriger et pour écrire de base de son livre, qu'il retournera dans toutes les communautés où il a parlé contre le Rambam pour parler pour le Rambam, toujours en étant opposé à ses conclusions, en étant opposé à ses livres, mais en expliquant que ce n'est pas parce qu'on est opposé à quelqu'un qu'on ne peut pas le respecter et reconnaître sa grandeur. Et donc, en fait, nous dit Rabbeinu Yonah, même le Chilul Hashem peut être corrigé. Tzarich le'arbot be'kiddush Hashem et foshaya Chilul Hashem. Il faut énormément ajouter du Kiddush Hashem là où il y a eu du Chilul Hashem. Le livre Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah vient donc nous expliquer qu'il n'y a absolument rien duquel on ne peut pas revenir. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les Averot. C'est vrai également, et c'est là la base de sa Torah, c'est vrai également pour son lien avec Dieu. La Teshuvah est quelque chose qui est premier et qui ne dépend pas, et je le répète, qui ne dépend pas de mes Averot. Puisque je vous rappelle que le Talmud nous dira que Tshuva Kadma Laolam, donc nous dira Rabbeinu Yonah dans le début de son livre, puisque la Teshuva a précédé le monde, ça ne peut pas être la Teshuva par rapport aux fautes, il n'y avait pas de faute avant la création du monde. Donc ça veut dire que la Teshuva, c'est d'abord et avant tout un élan de retour vers le Créateur. Retour non pas parce que j'ai fauté, mais retour parce que j'ai été créé. Et en tant que créature, eh bien, on m'a éloigné, Dieu m'a éloigné de lui, et donc j'ai envie de revenir. En d'autres termes, eh bien, le livre Sha'arei Teshuvah sert de base à une réalité profonde. Je veux revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, eh bien, c'est évidemment l'enseignement de cette Torah à Kabbalah. Un des contemporains de Rabbeinu Yonah n'est autre que la personne qui va nous intéresser maintenant et qui est certainement, l'un des piliers évidents du judaïsme, l'un de ceux de qui on va dire « Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe ». On avait dit ça à propos du Rambam, mais là maintenant, évidemment, quand on parle de Torah à Kabbalah et d'Espagne, eh bien, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Rabbi Moshe ben Nachman Aramban. Alors, Rabbi Moshe ben Nachman, j'ai dit c'est un contemporain de Rabbeinu Yonah, mais en vrai, il est un peu plus vieux et il va vivre un peu plus longtemps. Il naît en 1194 et il meurt seulement, beaucoup plus tard, en 1270. Donc déjà, pour l'époque, c'est assez rare de voir quelqu'un qui va mourir à 74 ans. Le Ramban, c'est une masterpiece Chaval al-Azman. Et vous allez voir que quand on va commencer à étudier un petit peu la Torah du Ramban, eh bien, c'est quelque chose qui est énorme, énorme tout simplement. Alors, qui est le Ramban? Eh bien, le Ramban fait partie de ces Gdolé Sfarad. Il a évidemment étudié dans la plus pure tradition de Barcelone, de Gérone. Il est là-bas, il fait partie eh bien, de ces rabbanim qui vont tout simplement recevoir leur Torah de Rabbi Yehuda Bar Yakar. Rabbi Yehuda Bar Yakar était l'un des plus grands maîtres du Talmud, qui était lui-même un des élèves du Rif. Donc on parle vraiment de la tradition de l'étude du Niglé dans sa plus pure tradition. Mais il y avait également un autre personnage très important qui va être son maître de la Kabbalah. Quel est ce personnage maître de la Kabbalah? Il s'agit de Rabbi Yitzhak ben Avraham Mishantz, Mitzantz. Et Rabbi Yitzhak ben Avraham Mitzantz, c'est très particulier parce que, eh bien, il fait partie des Baalei HaTosfot. Et donc, nous voyons ici une relation directe entre Chachmei Ashkenaz et Chachmei Sfarad. Rabbi Moshe ben Nachman va avoir une influence considérable sur le judaïsme, à tous les niveaux. Mais l'une des choses particulières chez lui, c'est que lorsqu'il fait son commentaire de la Torah, car le Ramban est très connu pour son pérouche à la Torah, et bien dans touche à la Torah, contrairement à Rashi, vous vous rappelez que Rashi, on avait dit qu'il mettait à l'intérieur de son pérouche, eh bien, Torah ta Kabbalah. Le Ramban va à chaque fois faire une distinction entre l'enseignement du Pshat et l'enseignement de la Kabbalah. Puisqu'il va nous donner son pérouche, et quand il dit ce qu'il a à dire, en premier lieu, tu sais que c'est le Pshat, et après il écrit « Ve'alpi derech ha'emet » Et là, il donne son avis kabbalistique. Et c'est très intéressant de voir que pour lui, eh bien, la Kabbalah, ça s'appelle Derer HaEmet. Ce qui est incroyable parce que si on y réfléchit bien, ça veut dire que le pérouche qu'il a écrit avant, Alpi Apshat, c'est l'autre Derer HaEmet. C'est-à-dire que s'il te dit 1, 2, 3, 4, 5, et après il te dit, ouais, mais selon la vérité, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait avant? En fait, mazé emet. Emet, ça ne veut pas dire vérité. Emet, ça veut dire amen. Ça veut dire zé nachon animekabel. Et c'est ça qui me permet de dévoiler Dieu. Zé a emet. Torat emet. A emet, c'est ce qui me permet de dévoiler Dieu. En d'autres termes, nous dit le Ramban, il y a un pérouche qui est pour me permettre de comprendre la Torah. Et un pérouche pour me permettre de dévoiler Dieu. Et c'est deux choses différentes. Alors le Ramban, évidemment, va être tatoué comme les autres, mais il va être surtout connu par son vicouar barcelonais. Nous sommes en plein milieu de la Reconquista espagnole, et donc nous sommes également au début de l'Inquisition espagnole. Et vous le savez bien, l'Inquisition espagnole, eh bien, que vient-elle chercher? L'Inquisition espagnole, entre autres choses, ne vient pas essayer de débusquer les Juifs qui vivent en Espagne. Elle vient essayer de débusquer les Juifs convertis qui pratiqueraient encore leur judaïsme en cachette, qu'on appelle les conversos. Donc c'est contre eux, l'Inquisition espagnole. Ce n'est pas contre les Juifs qui sont restés Juifs. Les Juifs qui sont restés Juifs, sont persécutés et ont des lois particulières pour eux, mais ceux qui se sont convertis au christianisme, qui a priori sont maintenant des chrétiens et devraient être acceptés dans la société, eh bien, on met en place des inquisitions pour vérifier s'ils sont véritablement bien convertis. Entre autres choses, on va mettre en place des grands débats publics pour renforcer la foi chrétienne, dans lesquels on met un rabbin face à un prêtre, qui en général est un juif converti, un conversos, et eh bien, on va se débattre pour montrer à quel point, même dans la Torah, le Tanakh et le Talmud, eh bien, on parle de Jésus comme étant le Mashiach. À Barcelone, le 20 juillet 1263, eh bien, nous avons le Vicouar de Barcelone. Et c'est là que le roi d'Aragon, James d'Aragon, qui est ami avec le Ramban, va être celui qui va présider le Vicouar entre le prêtre converti qui s'appelle Pablos Christiani, qui en fait était un juif converti au christianisme, qui va faire face au Ramban. Eh bien, le vicouar de Barcelone va durer pendant 4 jours, le 20 juillet, le 27 juillet, le 30 juillet et le 31 juillet. Pourquoi ne fait-on pas 4 jours de vikouar à la suite ? Bien simplement parce que le 20 juillet, le Ramban explose Pablos Christiani. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts, les chrétiens, à une réponse telle du Ramban qui répond à toutes les questions et qui domine complètement son adversaire. Résultat des courses, eh bien, il demande 7 jours pour se préparer au deuxième round. Sauf que dans le deuxième round, il gagne encore le Ramban. Et donc, il demande encore 3 jours. Et finalement, c'est le roi qui va dire les deux derniers jours doivent être à la suite parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre trop. Et au bout du quatrième jour de vikouar, eh bien, la nuit tombée, le 31 juillet, le roi James d'Aragon vient voir le Ramban en lui disant « T'as été trop fort, tu dois partir. » Parce que à Rome, on va faire interdire le vikouar, le débat, et il y a une prime qui est mise sur ta tête. Tu dois partir. Et il s'en va. Et il s'en va et il vient en Eretz Israël. Le vikouar de Barcelone va être la première fois où les chrétiens perdent. La première fois. Malheureusement, ce sera une des seules fois. Pourquoi ? Parce que trouver un rabbin de l'envergure du Ramban, ce n'est pas facile. C'est d'autant plus difficile quand, lorsque on tire les leçons de la défaite, eh bien, les chrétiens, lorsqu'ils vont continuer à faire des disputes publiques, c'est eux qui choisissent le rabbin. Donc évidemment, ils choisissent un rabbin qui n'est pas au niveau. Donc c'est très compliqué. Le Ramban est obligé de s'enfuir et il part en Eretz Israël. Le Ramban est évidemment l'un de ceux qui s'est opposé aussi au Rambam. Mais jusque-là, rien d'extraordinaire, il a le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais le Ramban a un endroit, alors qu'il n'est jamais d'accord avec le Rambam, évidemment, mais il y a un endroit où il écrit noir sur blanc « Assur le'amin bedivrei Arav Azé ». C'est dur. « Assur le'amin bedivrei Arav Azé », mais de quoi parle-t-on ? Eh bien, dans la paracha de Vayera, il y a la visite des trois anges qui viennent voir Abraham. Le Rambam, Maïmonide, va nous dire, la paracha commence en disant « Vayera et Lav Hashem », Dieu s'est dévoilé à lui. Eh bien, c'est quoi « Vayera et Lav Hashem » nous dit le Rambam. C'est trois esprits, trois réalités spirituelles, trois esprits qu'on appellera les anges et machin. Le Ramban écrit « Assur l'amin bedivra ravazé ». Ma pitom, ces trois anges, ce sont trois êtres humains qui sont venus, c'est des anges qui ont pris forme humaine et qui sont venus là, et que si toi, tu avais été à ce moment-là chez Abraham, tu aurais vu trois personnes arriver, alors que pour le Rambam, Abraham faisait dodo et ça se passe dans son rêve. Maintenant, pourquoi est-il si vindicatif ? Mais parce que le Rambam, lui, habite chez les musulmans, alors que le Ramban, lui, habite chez les chrétiens, et il a vécu à Al-Bessaro, la problématique des chrétiens. Et donc, vous savez ce que ça fait quand on dit dans un monde chrétien que c'est quoi le dévoilement de Dieu ? C'est trois. Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, pour le Ramban, c'est un combat terrible contre la Trinité. Et donc, il s'oppose fondamentalement au Rambam à ce niveau-là. Le Ramban, on a dit, fait partie des grands Mekoubalim de sa génération. Et en vérité, comment est-ce qu'on peut, en quoi se particularise ta shita kabbalite ? Eh bien, les amis, la shita kabbalite du Ramban se retrouve dans ce qu'on appelle Torat Hashmitot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Torat Hashmitot ? La vérité, Torat Hashmitot n'a pas été inventée par le Ramban. On l'attribue à ce qu'on appelle Sefer HaTemuna. Et Sefer HaTemuna, bien qu'énormément utilisé par le Ramban, Sefer HaTemuna est meyuchas à Rabbi Yechonia ben Akane. Rabbi Yechonia ben Akane, c'est un des Tanaïm, premier siècle de notre ère, c'est-à-dire quelques 1100 ans avant le Ramban. Alors, c'est quoi cette Torah Tashmitot ? Eh bien, Torah Tashmitot nous explique, c'est une Torah kabbalite cosmogonite, cosmologique. C'est-à-dire que cette Shita vient nous expliquer que le monde a été créé et en fait, il a plusieurs marzorim, il a plusieurs cycles de vie qui sont des cycles de 7000 ans. Oui, vous imaginez, il y a la Shemitah tous les 7 ans, c'est marqué dans la Torah, et tous les 7 Shemitot, il y a le Yovel. Eh bien, la Torah des Shemitot, telle qu'elle est mentionnée dans le Sefer HaTmouna, hein, nous explique que cette Shemitah et ce Yovel n'est pas vrai seulement au niveau du peuple juif, et donc tous les 7 ans et tous les 49 ans, mais pas tous les 50 ans, mais elle est vraie également au niveau du Marzor du monde, du cycle du monde. Et oui, car le Talmud nous dira à propos du verset Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, ne lis pas Bereshit, mais lis Barachet. Pour 6000 ans, le monde a été créé. Le 7e millénaire, c'est Yom Shekulo Shabbat, et c'est un cycle entier. En d'autres termes, tous les 7000 ans, c'est la Shemitah du monde. Et donc, le Yovel du monde, c'est tous les 50 000 ans. Combien de Yovelim y a-t-il en tout? Combien de cycles doit-il y avoir en tout? Eh bien, Torah Tashmitot, repris par le Ramban, nous explique eh bien, qu'il doit y avoir 18 000 cycles. D'où est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend cela tout simplement parce que le verset de Tehilim nous explique qu'Akadosh Baruch Hu se balade be'alpaim. Be'alpaim, 2000. Alors non, là-bas le Talmud va nous expliquer que alpaim là-bas, c'est fait 2000, mais c'est fois 10, c'est 20 000. Vezechaser, kitsour, on arrive, sans rentrer dans le débat mathématique, à 18 000 olamot. À tel point qu'on va nous dire tout simplement que Akadosh Baruch Hu, il a Shmona Esre Elef olamot. Donc, si vous me faites un petit calcul très rapide, parce que vous avez tous une calculatrice dans la tête, eh bien, si vous avez une calculatrice dans la tête, vous arriverez à une réponse qu'en vérité, il y a donc 18 000 fois, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Rajoutez à cela que le Ramban nous explique qu'en vérité, les années telles qu'elles sont présentées dans la Torah et dans la Shemitah, eh bien, ce n'est pas la même chose, les années de Dieu et les nôtres. Puisqu'il va nous expliquer le Ramban que les années, l'année divine représente 365 250 années normales. Ouah! Ouah, mais de quoi, pourquoi? Ben oui, en fait, puisque un jour est égal à un an, qui elef shanim be'einecha ke yom et mol ki yavor, ce qui est marqué dans Tehilim, eh bien, en fait, une année divine, c'est 365 000 ans. Donc, une Shemitah divine, c'est 2 550 000 ans à peu près. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, d'après Rabbi Moshe ben Nachman, au XIIIe siècle, nous dit le Ramban, nous sommes dans la 7e Shemitah. Très bien, seulement si on fait un calcul tout simple, on arrive à 15 milliards. En d'autres termes, pour le Ramban, nous sommes dans l'année 15 milliards depuis la création du monde. C'est absolument extraordinaire puisque ben, c'est le calcul auquel arrivent aujourd'hui nos scientifiques par rapport à la théorie du Big Bang. En d'autres termes, le Ramban, il y a déjà 700 ans, par cette shita de ce qu'on appelle shita ta shmitot, arrive à la même conclusion que la NASA aujourd'hui sur l'âge du monde. Donc c'est absolument extraordinaire et pour lui, tout s'organise autour de l'unité du Créateur. Et donc, ces 15 milliards d'années sont tout simplement un dévoilement petit à petit eh bien, du Créateur. Alors, je ne rentre pas dans le débat. Il y a plein d'autres, dans Torah Tashmitot, il y a plein d'autres rabbanim qui disent non, on n'est pas à la 7e Shemitah, on est à la 5e, on est à la 4e. Lo chashuv, ce n'est pas important ici pour nous aujourd'hui. Donc, vous voyez que le Ramban va avoir une influence considérable et également au niveau de ses élèves. Et oui, car le Ramban n'est pas tout seul dans l'histoire, bien évidemment. Parmi les grands élèves du Ramban, nous allons retrouver deux personnages. Deux personnages, l'un va se concentrer un petit peu plus sur, eh bien, sur l'iglé, qu'on appelle le Rashba. Le Rashba, Rabbi Shmuel ben Adéret, qui est un élève donc du Ramban, mais qui va être plus concentré sur le Talmud. Tshuvot HaRashba, tout celui qui étudie le Talmud, eh bien, il ne peut pas se passer du Rashba. Mais il y a un autre élève du Ramban, peut-être un petit peu moins connu, Ara'a. Ara'a. Est-ce que vous connaissez le Ra'a? En fait, Ra'a, c'est les initiales de Rabbi Aharon Alevi. Rabbi Aharon Alevi, eh bien, c'est évidemment un élève du Ramban, comme on vient de le dire. Il sera lui-même le Rav du Ritva. Non, pas le Ritvo, le Ritva. Eh oui, Rabbeinu Yom Tov, Berabbi Avraham Misséville, de Séville. Alors, on ne va pas parler du Ritva maintenant, parce que justement, le Ritva, lui aussi, comme le Rajba, va se concentrer plus sur Torah Tanigle. Donc, je me concentre sur son maître, Rabbi Aharon Alevi. Rabbi Aharon Alevi est donc un élève du Ramban, pas de problème, mais au-delà de ça, il grandit à Géron, bien sûr. Et quelle est sa particularité? Il a reçu de son maître, le Ramban, qu'il y a un commentaire de la Torah qui est Alpi Apshat et un autre qui est Alpi Derecha Emet, comme on a dit, vous vous rappelez. Rabbi Aharon Alevi va prendre une décision. Sa décision, c'est de dire, eh bien, mon maître a expliqué la Torah, moi je vais expliquer les mitzvot. Et oui, car il y a eu déjà un livre qui réunit la liste des mitzvot, à savoir, eh bien, le Sefer HaMitzvot du Rambam, Sefer Mitzvot Gadol également. Mais quel est le point commun de ces livres qui listent la liste des mitzvot? Eh bien, c'est que ce sont simplement des listes de mitzvot. On nous explique simplement comment on les pratique. Quand on regarde le Sefer HaMitzvot du Rambam, eh bien, le Rambam nous dit quelle est la mitzvah, quel est le verset duquel on l'apprend et comment on la pratique. Enfin, en très très rapide, puisque après, toutes les halakhot de ces mitzvot-là, il l'enseignera dans le Mishneh Torah. Mais Rabbi Aharon Alevi Ara'a vient et dit, non mais attendez deux secondes, moi ça ne me suffit pas de dire quelle est la mitzvah et d'où on la prend et comment on la pratique. Moi je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah. Qu'est-ce qu'elle va éveiller en moi dans mon rapport à Dieu. Et d'autre part, nous dit Rabbeinu Aharon Alevi, le Rambam va lister les mitzvot, mais pas dans l'ordre. Et qu'est-ce que ça veut dire pas dans l'ordre? Pas dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la Torah. Moi, je vais lister les mitzvot dans l'ordre de la Torah. Et je vais expliquer non pas seulement d'où on l'apprend et comment on la met en place, mais qu'est-ce que ça éveille chez moi lorsque je parle de cette mitzvah. Et donc, il va écrire un livre. Alors, oui, je vous dis tout de suite, il y a des chercheurs, des chokrim, qui sont là et qui disent « Non, ce n'est pas lui qui l'a écrit ce livre. » Il n'empêche que dans la Massoret, dans la tradition juive, eh bien, ce livre est « Meyuchas Elav ». Et ce livre que vous connaissez certainement, il s'appelle « Sefer Achinuch ». Sefer Achinuch. Et le Sefer Achinuch, eh bien, comment est-il construit? À chaque fois, on va prendre les mitzvot, donc selon les parachiotes de la Torah, parce que pour Rabbi Aharon Alevi, si Dieu les a donnés dans cet ordre-là, c'est que l'ordre a une importance pour ma façon de m'attacher à Dieu. Et donc, à chaque mitzvah, il va nous expliquer d'où elle vient, et ensuite il va nous expliquer « Mazé shorché a mitzvah ». Il n'y a pas seulement « dîner à mitzvah », il y a également « Mishorché a mitzvah ». L'origine de cette mitzvah au niveau profond, kabbalistique, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça éveille en moi et comment ça me rattache à Kadosh Baruch? Alors, on a parlé de beaucoup de personnages, mais il y en a un qui est, encore une fois, hein, vous avez compris que c'est tous la même équipe, hein, mais il y en a un qui est, comment vous dire, on ne peut pas ne pas en parler. Eh oui, parce que lorsqu'on parle du XIIIe siècle et qu'on est en Espagne, on est obligé de le dire, on est obligé de le citer. Il n'y a pas le choix. L'homme controversé, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui est né, semble-t-il, en 1240, qui mourra au tout début du XIVe siècle, en 1305. Mes amis, je parle de Rabbi Moshe Ben Shem Tov d'Ileon. Rabbi Moshe Dileon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que c'est lui qui va publier, qui va sortir le Sefer HaZohar? Et oui, et là, vous devez tout de suite comprendre que de quoi on parle. On a parlé de Rabbi Moshe Dileon il y a très longtemps, lorsqu'on a parlé du Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais oui, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit le Sefer HaZohar, mais il va falloir attendre plus de 1000 ans avant qu'il soit connu. Alors, jusqu'à présent, on a dit, et moi je m'inscris dans cette chita, qui dit que ben non, les Mekoubalim dans toutes les générations connaissaient le Zohar, même s'il n'était pas publié ou même s'il n'était pas célèbre. Mais Rabbi Moshe Dileon, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est lui qui a sorti au grand jour le Sefer HaZohar. Alors le problème, c'est quoi ? C'est que, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans la liste, David, tu pourras nous dire, est-ce qu'il y a une majorité de femmes qui nous écoutent ce matin ou une majorité d'hommes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les problèmes qu'on a par rapport au Zohar et qui l'a écrit, c'est à cause de sa femme. De sa femme, Rabbi Moshe Dileon. Pourquoi ? Bien parce que la femme de Rabbi Moshe, et c'est d'elle qu'on tient cette édoute, nous dit, moi je vous dis, Koya Asé, je cite le témoignage de la femme de Rabbi Moshe Dileon, nous dit comme ça, il y a un chacham qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Man Akko, de Min Akko, Rabbi Yitzhak de Akko, qui explique qu'il a reçu un témoignage de la femme de Rabbi Moshe Dileon, qui dit la chose suivante. Koya Aseli Elohim Vecho Yosif Im Me'olam Sefer Ze Aya Im Ishi Aval Mirosho Velibo Midaato Vesichlo Katav Kol Ma Shekatav Ve'omera Lo בראותי אותו כותב מבלעדי דבר לפניו. מדוע תאמר שאתה מעתיק מספר, ואתה אין לך ספר רק מראשך, אתה כותב? הלא נאה לך לומר, כי משכלך אתה כותב, ויותר כבוד יהיה לך. ויען אליי ויאמר, אילו הודיע להם סודי זה, שמשכלי אני כותב, לא ישגיחו בדבריי ולא ייתנו בעבורם פירוטה, כי יאמרו כי מליבו הוא בודה אותם. אבל אתה, כאשר ישמעו שמתוך ספר הזוהר, אשר חיבר רבי שמעון בר יוחאי, ברוח הקודש אני מעתיקם, יקנו אותם בדמים יקרים, כאשר עיניך רואות. C'est une témoignage très 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 fort. Nous dit la femme de Rabbi Moshe Dileon. Un jour, elle le voit écrire sans aucun livre devant lui. Et il dit à tout le monde qu'il recopie le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle lui dit, mais pourquoi tu dis à tout le monde que tu recopies ? En fait, c'est toi qui écris avec ton esprit, avec ton cœur. Il répond, Rabbi Moshe, parce que si je dis que ça vient de moi, personne ne va l'étudier, personne ne va faire attention à ce que j'écris. Si je dis que ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne suis qu'un recopieur. Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît, ça fait 1000 ans, c'est un Tana. Donc il a le droit à Kodesh. Donc tout le monde va acheter ce livre. Ce qui est important, c'est que les gens connaissent cette Torah. Alors c'est très fort parce que, voilà, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'il dit ? Est-ce qu'effectivement, c'est un copieur ou est-ce que c'est vraiment de lui ? Et il n'a pas eu envie de le dévoiler parce qu'il ne voulait pas qu'on se moque de lui. C'est chez l'Agdola. Okay, c'est une vraie question. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis de l'avis que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar et que Rabbi Moshe Dileon l'a ressorti. C'est-à-dire qu'il a, c'est lui qui a décidé qu'il était temps que tout le monde le connaisse. J'ai envie de dire qu'il a quand même le mérite de l'avoir sorti. C'est-à-dire que ce soit lui ou pas lui, et moi je pense que ce n'est pas lui, mais c'est quand même lui qui a décidé qu'il était temps aujourd'hui que les paroles du Zohar soient connues de tous. Et rien que pour cela, eh bien nous lui devons, nous sommes redevables de lui de beaucoup de choses. Et donc Rabbi Moshe Dileon était sans aucun doute Chacham Gadol Meod, et parce que même si tu me dis qu'il n'a fait que recopier, machin, il a quand même réussi à non seulement copier comme il faut, mais en plus de cela, parce qu'il n'y avait pas de livre C'était plein de choses qu'il fallait remettre ensemble. Et au-delà de ça, eh bien, il a réussi à faire en sorte que son influence va donner au Sefer HaZohar toute sa grandeur. Et lorsqu'on parle de tous ces personnages, eh bien, je voudrais aujourd'hui terminer notre série avec un dernier homme qui est eh bien, celui qui va finir notre cette époque-là, puisque nous sommes maintenant au milieu du XIVe siècle, avec l'élève de l'élève du Ramban, Talmid Talmido chez la Ramban, puisqu'il est l'élève du Rashba, mais il est l'élève du Rashba et du Ramban dans la mesure où du Rashba il a pris toute la Torah Taniglé et du Ramban il a pris toute sa Torah Tanistar. Qui est-il? Eh bien, nous parlons ici d'un homme qui est mort en 1340 et qui est né en 1255. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un lui aussi qui a vécu longtemps, 85 ans, et ce n'est pas rien pour l'époque. Je veux parler de Rabbeinu Bechaye ben Asher ibn Haloua, c'est-à-dire Rabbeinu Bechaye, à ne pas confondre avec Rabbeinu Bachia ibn Pakuda, que nous avions déjà évoqué. Non, il s'agit de Rabbeinu Bechaye. Et Rabbeinu Bechaye, bon, au-delà du fait que, voilà, on va pas tout redire, Rabbeinu Bechaye a écrit un commentaire, évidemment, de la Torah, bien sûr. Aval, les paroles de Rabbeinu Bechaye ne sont pas que des paroles de Pshat et de Dvar Torah. Dans ses commentaires de la Torah, il explique quel est le lien, et ça c'est assez incroyable, il explique quel est le lien entre la Torah du Ramban et la Torah du Rambam. Et ça c'est quelque chose qui est incroyable, c'est le premier qui va le faire. La Torah du Ramban, il écrit « Ora lanu et aderech asher na'ale ba ubederech emet inchanu ». Donc ça c'est la Torah du Ramban, Torah ta emet, on a dit. Torah à Kabbalah chez la Ramban. Aval Torah à Rambam, nous dit Rabbeinu Bechaye, ze Torah asher yorenu asher neda et derech Hashem. C'est-à-dire que la Torah du Ramban nous permet de nous élever vers la compréhension et la connaissance de ce que veut Dieu. La Torah du Ramban nous permet de savoir quel est le chemin à emprunter. C'est assez incroyable. Le Ramban et le Rambam sont en désaccord. Rabbeinu Bechaye vient dire, je vais vous expliquer pourquoi ils étaient en désaccord. Ils étaient en désaccord parce que mon maître, alors il fait référence au Ramban, bien que ce soit le maître de son maître, il dit, parce que mon maître ne connaissait pas la philosophie. Ah, mon maître ne connaissait pas la philosophie, du moins pas comme le Ramban. Pas comme le Ramban, le Ramban était aussi philosophe, mais pas autant aussi poussé que le Rambam. Et nous dit Rabbeinu Bechaye, moi je suis un philosophe, moi j'ai étudié la philosophie aristotélicienne à la mode du Rambam, et je peux vous dire que si le Ramban était autant bâti dans la philosophie que le Rambam, eh bien il aurait compris qu'en fait, ben, il dit la même chose que lui. En d'autres termes, Rabbeinu Bechaye a un grand combat, c'est d'essayer de réunir le Rambam et le Ramban. C'est peut-être le combat le plus important. Mais Rabbeinu Bechaye va nous donner une information. Une information que pendant longtemps, on pensait que c'était que de chez lui. Genre, il raconte une histoire. Mais en vérité, on a retrouvé depuis les Kitvé Aramban. Kitvé Aramban, de quoi on parle? Rabbeinu Bechaye va nous raconter une massorette, un enseignement qu'il a reçu du Ramban. Et comme je dis, maintenant, on l'a retrouvé dans les textes officiels du Ramban. C'est quoi cette tradition? Le Ramban est arrivé en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, eh bien, il demande, entre autres choses, il est parti à Jérusalem, il est à Hevron, il écrit dans sa Igeret à Ramban, dans la lettre qu'il écrit à son fils, il écrit qu'il va lui-même se creuser une tombe à Hevron. Et oui, d'après la Massoret, le Ramban est enterré juste à côté de Meirat Amarpella à Hevron. Mais il va à un moment donné, quand il est en Israël, demander aux Juifs qu'il rencontre de l'amener sur la tombe de Rachel Imen. Et le problème, c'est que le Ramban, lorsqu'il a écrit son commentaire de la Torah, Dans les versets qui parlent de l'enterrement de Rachel, eh bien, il va localiser la tombe de Rachel, pas là où nous on va. Et là, plus au nord de Ramallah, dans la tribu de Binyamin. Il dit, c'est là qu'est la tombe de Rachel, Bederech Ephrata et Bethlehem. Lorsqu'il arrive en Israël, il demande aux Juifs qu'il rencontre de l'amener sur la tombe de Rachel Imenu. Et les Juifs l'amènent là où nous on va. Et là, le Ramban écrit, donc dans les Kitvei Ramban, mais que nous on a retrouvé d'abord dans les écrits de Rabbeinu Bechaye, le Ramban écrit Alpi Asvara. D'après la compréhension que j'ai des versets, Rachel Imenu est enterrée Batsafon. Mitzafon Yerushalayim. Aval Alpi Amasoret Ikvura Badarom. Elle est enterrée au sud, c'est-à-dire à Bethlehem, là où nous on va, au Kever Rachel. Et nous dit le Ramban, puisque la Masoret, la tradition, nous dit qu'elle est enterrée ici, alors elle est enterrée ici. Nous dit Rabbeinu Bechaye, il n'existe rien de plus fort dans le judaïsme que la tradition juive. Absolument aucune force de transmission n'est plus forte que la tradition. Pour Rabbeinu Bechaye, eh bien, l'enseignement de la Kabbalah va se faire sous forme de ce qu'on appelle Midrashé Rabbeinu Bechaye à la Torah, dans lesquels, à la différence du Ramban qui va faire un commentaire Pshat et ensuite Derech HaEmet, lui ne va faire que Derech HaEmet. Le pérouge de Rabbeinu Bechaye, c'est Kol Kulo Kabbalah. Kol Kulo Alpi Derech HaEmet. Même si on a l'impression que la première explication, Zero Veda Pshat, en vérité, il est Alpi Derech HaEmet. C'est ça sa force, c'est d'arriver à écrire avec un langage pshati les idées de Torah à Kabbalah. Après Rabbeinu Bechaye, après le XIVe siècle, eh bien, nous allons devoir faire face à une réalité extrêmement difficile. Extrêmement difficile quand on parle des Juifs d'Espagne. Il y a une réalité extrêmement difficile qui est que, à partir des années 1400, ça commence à devenir très compliqué d'être juif en Espagne. Et on se rapproche énormément, énormément de ce qu'on va appeler l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, et c'est pour ça que vraiment le dernier personnage que je veux évoquer aujourd'hui, c'est un homme qui va ouvrir la voie du début du XVe siècle, des années 1400. Je m'arrêterai avec lui, il s'appelle Rabbeinu Chisdai Kreskas. Rabbeinu Chisdai Kreskas est un... vous savez quoi, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres gens que je devrais évoquer. Il est l'élève du Ran, de Rabbeinu Nissim de Gérone. Et lui aussi, Rabbeinu Nissim de Gérone, il est l'élève de l'école du Ramban. Rabbeinu Nissim de Gérone, c'est vraiment un pote, si je puis dire, à Rabbeinu Bechaye. Donc j'ai parlé de Rabbeinu Bechaye, j'aurais pu parler du Ran également, c'est la même école. Et Rabbeinu Chisdai, eh bien, va écrire un livre fondamental, mais fondamental, justement pour faire face à toutes ces questions actuelle, je parle de son époque, où la philosophie est présente à 100%, où le christianisme est complètement sur nous et où, eh bien, sans Torah ta Kabbalah, on ne sait plus comment se rattacher à Dieu. Il écrit un livre qui s'appelle Or Hashem. Or Hashem, Rabotai. Et ce livre, c'est un livre de philosophie juive dans lequel il va nous expliquer comment la philosophie aristotélicienne et donc la Shita du Rambam, eh bien, rentre totalement dans l'idéal du judaïsme. Comment est-ce que finalement, eh bien, on peut dévoiler les secrets de la Torah avec un langage qui est le langage usité par les intellectuels de son époque, à savoir la philosophie. Et donc, il écrit son livre en plusieurs ma'amarim. Il y a le ma'amar Rishon, ma'amar Sheni, ma'amar Shlishi, et le ma'amar Revi, évidemment. Maintenant, c'est quoi ? Alors, le ma'amar Revi, ce sont des drushim. Ce sont des explications sur des sujets kabbalistiques. C'est-à-dire que le ma'amar Shlishi, le ma'amar Revi, il va parler des Galgalim, il va parler de Ma'aseh Merkava, ensuite il va parler du Gan Eden, du Gehinom, Ma'aseh Bereshit. Donc c'est vraiment uniquement Ma'amar Revi, c'est que des nosim de Kabbalah. Le ma'amar Shlishi, eh bien, il va nous expliquer les notions de base du judaïsme, mais alpi à Kabbalah dans un langage philosophique, comme par exemple l'éternité de l'âme, Sachar Va'onesh, la résurrection des morts, Nevoat Moshe. Dans le Ma'amar Sheni, il nous parle des bases de notre rapport à Dieu. Metziut Hashem, l'Ashgacha Pratit, la prophétie, le libre arbitre. Et dans le Ma'amar Rishon, il nous parle de Klalim. Il nous met en place les bases de sa Torah. Eh bien, ce livre, Or Hashem, va être fondamental parce que son élève, Rabbi Yosef Albo, va résumer son livre dans un livre qui s'appelle Sefer HaIkarim, dans lequel il dira qu'il y a trois principes fondamentaux du judaïsme: l'existence de Dieu, la cause-conséquence et que la Torah vient du ciel. Et si vous voulez, ces rabbins-là marquent la fin de l'âge d'or des Juifs d'Espagne, marquent le début de la fin du judaïsme d'Espagne, puisque cela nous amène avec Rabbi Yosef Albo aux années 1460, les années où Isabelle la catholique va commencer à monter sur le trône et où on va commencer à voir le profil, le début de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais ça, nous le verrons pas la semaine prochaine, parce qu'il faut retourner chez les Ashkenazim. Et donc la semaine prochaine, nous nous attaquerons à un énorme morceau qui s'appelle Rabbeinu Asher Berabbi Yichiel, Rabbeinu Arosh. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros et je répondrai à toutes vos questions, mais en marchant, parce que je suis obligé de marcher. Voilà.
Alors, il y a une question sur le chat de Meir Malka. La copie qui a été faite, même s'il a recopié Rabbi Shimon, c'est une copie exacte, intégrale. C'est-à-dire, comment on peut savoir ?
On n'a aucun moyen de savoir. On n'a aucun moyen de savoir puisque on n'a pas retrouvé la copie originelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on ne sait pas du tout. On n'a pas retrouvé le caviat de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc soit on admet l'avis des Mekoubalim que en fait le Zohar ça vient de Rabbi Shimon et Rabbi Moshe Dileon l'a ressorti, ou on accepte l'avis des Chokrim qui disent non, c'est lui et c'est tout. Donc, il n'y a pas de moyen de vérifier.
Je peux poser une question ?
Bien sûr.
Allez-y.
Revenez au nom de ce que vous nous avez. Sefer HaTmouna. Vous pouvez me dire quelque chose ? Qui a écrit ? Ça a été trop vite.
Ah, excusez-moi. Sefer HaTmouna, on le situe et du 1er siècle de l'ère chrétienne, qui a été écrit par Rabbi Nechonia ben Akana, c'est-à-dire un des Tanaïm qu'on retrouve dans la Mishnah.
J'avais une autre question. Excusez-moi parce que j'ai eu du mal, il y a eu énormément de noms. Arashba et Hara. Arashba et Hara. Mettez-les-nous dans ce Sefer HaChinuch. Hara, Sefer HaChinuch.
Non, Ra'a, on dit Ra'a. Rabbi Aaron Ben Levi. Rabbi Aaron Hallevi. Rabbi Aaron Hallevi, Sefer HaChinuch, exactement. Arashba, c'est Rabbi Shmuel Ben Aderet.
Oui, qu'est-ce qu'il a fait?
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commenté tout
à l'heure. Vous n'avez pas développé ce sujet. C'est-à-dire, c'est le Hara qui. Le Hara, c'est celui qui est important.
Voilà. Ils sont tous importants. Ils sont tous importants. Le Rashba, le plus important, c'est aussi un Mekoubal. Mais sa Torah qui nous a laissé est plus une Torah Taniglé qu'une Torah Tanistar. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est
David. Merci.
Arabe, question de Gabriel.
Rav Fison.
Oui.
Une minute, j'ai une question là. Rav Kreskas, son Or Hashem. Ça ne rappelle pas le Derech Hashem du Ramchal? Alors, dans ce qu'il a développé.
Alors, ça ne peut pas rappeler le Derech Hashem du Ramchal, dans la mesure où Derech Hashem ne
sera venu après,
700 ans plus tard. Mais effectivement, on va retrouver dans le Derech Hashem du Ramchal quelques points qui sont... Maintenant, le Ramchal, lui, ne parle pas du tout en langage philosophique. Donc, c'est vraiment un style complètement différent.
Alors, question de Gabriel Lévy. Gabriel.
Merci. Oui, alors, moi, ce n'est pas une question sur le cours, c'est une question plus globale. Est-ce que, Rav, il y a un moyen, parce qu'on va quand même très vite pendant le cours, on parle de beaucoup de rabbanim, etc. Et j'ai essayé de chercher, moi, personnellement, sur Internet pour voir s'il y avait une façon de retrouver cette généalogie-là des Dorot qu'on retranscrit depuis le début des cours.
Est-ce que, ouais.
Voilà, comment réviser, entre guillemets.
Ah bah d'abord, les cours sont enregistrés.
Oui. Mais ça serait bien d'avoir une vision comme ça, maintenant, avec une généalogie.
Maintenant, alors, tout à fait. Maintenant, j'ai prévu, alors, ça ne sera pas tout de suite, mais j'ai prévu à la fin de notre étude de consacrer un cours minimum, voire deux, pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Et j'ai prévu également de vous le faire par écrit.
Ah, super.
Après le livre ou avant le livre?
Non mais attends, j'ai pas prévu de faire par écrit tout ce qu'on a dit, juste de vous faire une liste généalogique des rabbins.
Oui, Shalom Rav. Moi j'ai remarqué donc de tous les derniers rabbins pour te citer notamment, qu'il y a cette volonté de réunir le Ramban et le Rambam.
Ouais, vraiment, tu as raison.
Et j'ai remarqué que, j'ai pas entendu qu'il était mentionné, mais le Ritva, il fait aussi ça avec son Sefer Hazikaron, etc.
Tout à fait. J'ai pas parlé du Ritva, parce que j'ai dit tout à l'heure, le Ritva, c'est aussi, comme le Rashba, c'est des rabbanim qui sont bien qu'étant Gam et Koubalim, ils se sont plus concentrés sur Torah Taf, un Iglé. Donc c'est pour ça que je les ai pas développés dans ce cours-là.
Et moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'après le Gerush Sfarad, après l'Inquisition, on ne retrouve plus ça. On a l'impression que les gens, ils ont arrêté d'étudier la philosophie, etc. Il y a tout un... c'est une autre... Ça va dans un autre courant complètement. Il y a un détachement entre les deux mondes, quoi.
Ah bah, tout d'abord, il y a un arrêt de l'étude de la philosophie, mais pas que chez les Juifs. C'est-à-dire, de manière générale, le monde a arrêté de se référer à la philosophie aristotélicienne dès le début de la Renaissance. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a plein de nouvelles... Enfin, c'est la Renaissance. Et donc, il y a une renaissance au niveau des idées également. Et plein d'observations du monde remettent en cause les conclusions d'Aristote et de Platon. Pardon ?
Non, excusez-moi, c'est mon erreur. J'ai rien dit.
Ah, OK. Donc, comme il y a une remise en cause de la Torah, des idées d'Aristote et de Platon, donc il y a une remise en cause également de toute cette idée philosophique. Et donc, il y a une nouvelle philosophie qui va se mettre en place par d'autres philosophes de la Renaissance. Résultat des courses, eh bien, gamme chez les Juifs, on arrête d'en parler. Résultat des courses, eh bien, effectivement, au XVIe et au XVIIe siècle, on ne va plus parler du tout de cette chita-là d'avant. Et on va se tourner vers d'autres choses.
Mais pourtant, j'allais dire, dans le Réma, qui est plus tardif, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup, lui, de philosophie.
Pas la même philosophie.
D'accord.
Le Réma, en l'occurrence, c'est lui aussi un philosophe, mais tu remarqueras qu'il se réfère beaucoup moins à la philosophie antique. C'est une autre philosophie, c'est une philosophie qui est la philosophie de ce qu'on appelle le début de la Renaissance. Donc c'est vraiment, c'est un autre style. Et en vérité, tous les rabbins dans chaque génération vont être obligés de faire face à ce qui a été écrit chez les goyim également. Seulement, on fait pas face toujours au même débat. Donc,
c'est pour ça. Question de Meïra Malka. Meïra.
Oui. Oui, bonjour Arabe, je ne comprends pas. Si vous dites qu'on ne sait pas, moi je retourne au Zohar.
Oui.
Vous dites qu'on ne sait pas, mais alors d'où on prend son texte, d'où on sait que son texte a été écrit par lui ? Quelle preuve a-t-on que c'était lui qui l'a écrit ?
Quand vous dites lui, vous parlez de qui ?
Rabbi Shimon.
Ah, Rabbi Shimon. Quelle est la preuve qu'on a que ça vient de Rabbi Shimon ? En vrai, aucune. À part le fait que c'est ce qu'on nous a donné par tradition, à part le fait que le Harizal a dit c'est de Rabbi Shimon, à part le fait que le style littéraire n'est pas le style littéraire du XIIIe siècle, C'est-à-dire que c'est un style littéraire très ancien. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il a, Rabbi Moshe Dileon, il a écrit en style ancien. Mais c'est quand même assez bizarre que si ça vienne vraiment de sa tête, eh bien, il écrive avec le style du premier siècle. C'est quand même très bizarre. Mais on n'a pas véritablement de preuves. Je veux dire, à part la tradition. Seulement, j'ai terminé le cours en disant aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus fort que la tradition.
On peut demander une question ?
Oui.
Quelle est la différence pour moi ? Je ne comprends pas très bien parce que moi, j'ai fait de la philosophie. La philosophie et la Kabbale. Donnez-moi en un mot la définition de philosophie par rapport à la
Kabbale. Ouh là là, c'est dur, hein ? Vous posez une très, très grande question. D'abord, je vous invite, si vous comprenez l'hébreu, à regarder, il y a une série de, je sais pas, 40 cours de 4 minutes à chaque fois. C'est des tout petits cours du Rav Cherki où il a fait une série qui s'appelle « Ben Kabbalah le Philosophia ». Où il explique la différence entre la Kabbalah et la philosophie. Donc ça, déjà, je vous renvoie à cela. Mais au-delà de ça, « Philosophia ohev chokhma ». D'accord ? La traduction du mot philosophie, c'est celui qui aime la sagesse. Alors que dans le judaïsme, on appelle les rabbins les talmidei chachamim, les enfants, les élèves de chachamim. Donc il y a une différence entre aimer quelque chose, c'est-à-dire ne pas faire un avec, et ne faire plus qu'un avec la chose. Torah Takaba vient nous enseigner comment est-ce qu'on ne fait plus qu'un avec la volonté divine. Et pas seulement comment est-ce qu'on porte un jugement dessus de l'extérieur. Si vous voulez, la philosophie, c'est une réalité de compréhension qui vient mimata lemala, c'est-à-dire c'est mon esprit qui me permet de m'élever à quelque chose, alors que Torah ta Kabbalah, c'est comme son nom l'indique, la Kabbalah, c'est je reçois mimala lemata. Ok ?
Génial. Voilà. Alors,
merci.
Shabbat Tov.